La semaine dernière, j'ai peint une image un peu sombre, je crois. Je me sentais obligé de répliquer bibliquement aux événements à Charlie Hebdo et dans la ville de Paris la semaine dernière. Le but pour les chrétiens n'était pas d'être pessimiste et théoriste, mais de voir la joie que nous pouvons avoir de ne pas avoir peur de ce qui se passe et de pouvoir contraster les deux groupes de gens quand Jésus a dit, si vous ne vous repentez pas, vous allez également périr aussi. Parce que il n'y a que deux catégories de personnes. Ceux qui se repentent pour ne pas périr et ceux qui ne se repentent pas pour périr. À chaque fois que ça arrive, si Jésus avait été posé la question ici à Bordeaux, avez-vous entendu ce qui s'était arrivé à Charlie Hebdo la semaine dernière? Il aurait probablement dit la même chose qu'il avait dit en Luc chapitre 13, qui n'est pas notre texte encore aujourd'hui. Nous avons terminé par essayer de faire comprendre quand Jésus disait, mes chers amis, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Savez-vous que ce que vous devez craindre, je vais vous le dire, c'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l'assure. C'est lui que vous devez craindre. Et certaines personnes à qui il parlait auraient dû comprendre parce que Jésus avait dit, et nous avons cité les quatre mots la semaine dernière, tous également périr, repentir, pour donner de l'espoir à ceux qui ont repenti et pour donner aussi l'espoir à ceux qui n'ont pas repenti pour qu'ils puissent se repentir parce qu'ils vivent encore. Et ce n'est pas le message, mais dans un sens, ça provoque le message. Je pensais pendant la semaine sur différentes raisons pourquoi le non-croyant devrait remercier Dieu après une catastrophe. Supposons qu'il y a quelques non-croyants ici, et vous aurez pu mettre plus. J'avais mis 6, et 15 minutes avant que vous veniez, j'avais ajouté une 7e. Et ça aurait pu être dit autrement. Mais ce qui m'est arrivé à l'esprit, pourquoi, si je suis un non-croyant, devrait-il que je sois reconnaissant par cette catastrophe qui arrive par rapport à moi-même, premièrement parce que je suis toujours vivant. Il y a certaines dans un magasin juif qui ne sont pas encore vivants. 5 personnes. Une douzaine d'autres personnes qui ne sont pas encore vivants. Mais je suis encore vivant. Est-ce que les 17 étaient pires que les autres? Jésus dit non. Mais à moins que vous vous repentiez, vous allez périr également. Périr. Nous avons discuté la différence entre mourir et périr. J'ai été donné encore l'occasion d'éviter la mort. Savez-vous combien de fois par jour vous êtes si loin de la mort sans que vous le sachiez? David disait, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Il n'y a qu'un pompe, battement de cœur entre vous et la mort. Un jour, le cœur s'arrêtera, sera le cas pour certains aujourd'hui, sans qu'ils sachent. Ils ne savaient pas qu'il ne restait que 10 pompes, que 10 battements, puis 9, puis 8, 5 avant leur fin, ils étaient bien. Et c'est notre cas tous les jours que Jésus dit, chaque fois qu'il y a une catastrophe, ça souligne tout cela. Mais je suis encore privilégié de voir avoir encore une journée pour changer. Donc, la date certaine de ma mort a été prolongée. Je ne connais pas la date. Vous ne connaissez pas la date. Il y a des mouvements dans le mentalité humaniste que nous avons le droit de choisir notre date. Certaines choisissent leur date. La plupart des gens espèrent pour plus de jours et de semaines et de mois que la date prévue par le médecin qui disait vous avez un cancer incurable et d'ici 3 mois tu seras mort. Et puis on connaît tous des histoires où des gens vivaient encore des mois et des années après la prédiction de leur médecin. Mais vous ne connaissez pas la date. Mais vous avez encore une date parce que Dieu vous a préservé de cette catastrophe. Donc la date de mon jugement en tant que non-croyant a été aussi prolongée. J'aurais pu mourir, après quoi vient le jugement, Hébreux chapitre 9, verset 27, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, votre jugement n'est pas venu la semaine dernière à Paris. Mais il y en a d'autres qui sont venus hier dans un accident de voiture, à l'hôpital avec une maladie, et leur jour de mort est arrivé. Le garantie de leur jugement sans avoir repenti est arrivé. La capacité de faire demi-tour et changer est finie. Mais pas le vôtre, pas le mien, parce que je suis là et je respire. J'ai reçu donc un autre rappel, un autre secousse, un autre tremblement de terre où des gens ont trouvé enfin ce que leur attendait. Il n'y a aucune personne, aucun chrétien qui a évité mourir. Depuis 2000 ans, et votre jour arrive, à moins que Christ arrive en premier, et si vous n'êtes pas avec le Seigneur, le jugement est aussi clair. Donc, j'ai encore un autre rappel, un autre avertissement, et j'ai reçu une invitation de la part de Jésus, repentir pour être sauvé. Et donc j'ai ajouté juste ce matin, je peux toujours croire et être sauvé. Pourquoi un non-croyant devrait remercier Dieu? Franchement, cette chose ici que chaque chrétien devrait dire consciemment ou inconsciemment par rapport à ça, à tout ce qui se passe dans le monde, les secousses arrivent. Jusqu'à présent, je vis encore. Il y a des personnes qui ne vivent pas après ces secousses. Donc, nous sommes dans un des états ou l'autre. Je ne sais pas si l'illustration est vraiment à propos, mais l'optique que nous avons par rapport à la vie et la mort détermine si nous voyons un acte de théorisme, que nous soyons théorisés, ou que nous comprenions que Dieu est souverain. Je crois qu'il n'y a aucune doctrine qui est plus important pour le chrétien de savoir que Dieu est souverain. J'ai vu Spurgeon juste ce matin, c'est le chrétien réalise que chaque épreuve tragique, difficile, est sanctifiée par Dieu. J'avais jamais employé le mot sanctifié pour une épreuve. J'avais employé le mot sanctifié pour l'éprouver. Mais l'épreuve, mise à part pour Dieu, pour accomplir sa volonté dans votre vie, sont sanctifiés. Le chrétien peut savoir ce qui m'arrive est sanctifié, mis à part, pour un but particulier. Je peux toujours croire et je peux toujours être sauvé. Le jour arrive où il n'y a plus de pouvoir. Illustration de le contraire, c'était l'apôtre Paul. J'étais dans le bois hier et j'ai décidé de lire le livre de Philippiens, juste comme ça, motivé par un prédicateur que je voulais entendre un message. Et il s'est mis devant et sans aucune annonce, il commençait de réciter le livre de Philippiens. Il n'a pas terminé jusqu'à 18 minutes plus tard où il avait récité par cœur avec beaucoup d'expression pour que pendant certains temps je ne croyais pas qu'il était en train de réciter parce qu'il était en train de, avec mémoire, de dire ce que le livre dit, mais parfaitement mot à mot. Je me suis dit, waouh, ça c'est très impressionnant, avant qu'il commence le message. Et alors, je me suis dit, je vais juste au moins écouter et lire avec des écouteurs, avec mon Kindle Reader, au moins lire cela. Et j'ai lu cela dans la perspective de ces derniers événements, et j'ai vu ça dans verset après verset après verset, mais une mentalité qui devrait être la mentalité du chrétien, et ça c'est juste un mi-chemin entre le message de la semaine dernière et le message aujourd'hui, où je veux juste citer quelques versets de l'apôtre Paul quand il a dit « Je suis certain » que toutes ces épreuves, attention, il est en prison, en train de souffrir pour la foi. Il écrit ceci depuis le prison. Je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à ma délivrance, à mon salut. Mon sauvé, salut vient du sauver. Quand quelqu'un est dans la piscine, où il fait le plus profondeur, il ne sait pas nager, il ne crie pas pour la justification, il ne crie pas pour la sanctification, il crie pour le salut, sauve-moi, délivre-moi. Paul dit, je suis sûr que je serai délivré grâce à vos prières, pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant, comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur de Christ, c'est le summer que je lis, la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Devant tous les jours, Paul qui a subi pas mal de catastrophes, vraiment secouant, et il vivait pour en parler après. Le dernier, il n'a pas vécu. Probablement Paul a été décapité sous l'ordre de Néron en Rome. La tradition nous le dit et il est peut-être probablement vrai. On ne le sait pas. On sait qu'il est mort. On sait qu'il n'est pas allé jusqu'au ciel sans mourir parce qu'il fallait qu'il passe par la mort. Il n'a pas péri. et devant la mort, devant ces catastrophes, Paul a terminé par dire, je me suis trouvé content, peu importe ma situation. En pleine mer, 3 jours et nuit, Paul disait, quand tout semblait noir, il chantait en prison, avec ses pieds dans les ancres comme ça, très 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 écartés, péniblement, chantait. Paul n'avait peur du tout de la mort. Il avait peur, il a exprimé sa peur, qu'il risquerait de, au moment de sa mort, ne pas montrer le courage, ne pas montrer sa grandeur de Christ, et de mourir au mal. Mais mourir, il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que le prochain verset dit, pour moi, en effet, la vie, c'est Christ. La vie, c'est Christ. Et je sais qu'au mieux, je vois à travers un miroir. Au mieux, il voyait mieux que nous, probablement. Mieux que d'autres, mais il voyait pas comme il attendait voir. Et donc, au pire, la mort, pour moi, sera un gain. Au pire, la mort serait un gain. Et pourquoi Paul sentait comme cela? Aujourd'hui, en quelques minutes, pas longtemps, je voudrais que vous tourniez en Romains chapitre 8. Il y a des années, où ça doit dater depuis presque une quinzaine d'années maintenant, il y a presque personne ici qui saurait, j'avais abordé de faire des messages à travers le livre de Romains, et en 2 ans et demi, je suis arrivé à la fin de chapitre 7. Je n'ai jamais entré en verset 8. J'avais l'intention, mais finalement, j'ai tout laissé tomber. Et ça, Romains 8, c'est vraiment le sommet de la montagne où l'apôtre Paul est en train de dévoiler et d'argumenter la justification par la foi pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi Paul et pourquoi chaque chrétien pourrait vivre différemment que d'autres face aux épreuves et face à la mort et face aux catastrophes? Je crois que ça sera une bonne, juste pendant quelques minutes, de réfléchir en survol. Je ne suis pas trop bien de faire des survols, des longs passages, mais 39 versets, juste quelques petites phrases pour que, si vous rentrez cette semaine à la maison, de juste glorifier pendant 15 minutes par jour, peut-être plus, dans réflexion de ce que vous avez réellement en Christ par rapport à ce que ceux qui n'ont pas Christ ont. Et versets 1 à 13, et nous n'allons pas lire tous, nous lisons de l'affranchissement du péché et de la loi du péché. Tournez à Romains chapitre 8. Parce que je ne vais pas mettre sur l'écran des versets. Ici, c'est le dernier cliché. Donc, je vais juste noter certaines choses. Je l'avais fait juste brièvement. Le fait qui garantit que non simplement est-ce que le croyant ne sera pas condamné s'il arrive une catastrophe ou s'il meurt naturellement, tous meurent, tous ne périssent pas, mais ceux qui meurent sans ce que nous avons ici vont périr le mieux qu'ils puissent voir. c'est de vivre une vie très 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 courte, sans beaucoup de peine, parce que l'éternité est infiniment pire que ce qui était arrivé à qui que ce soit. Théorisme est partout. Tout le monde, 40 différents pays sont réunis en Paris la semaine dernière avec un record sur les manifestations par rapport à la quantité de personnes qui assistaient avec le président de la République. Mais le terrorisme est partout. Il n'y avait pas autant de monde qui sont réunis en Nigeria où 2000 personnes dans un seul assaut. La plupart des enfants et des femmes qui ont été massacrés. Et on peut voir depuis un satellite de dévastation qui a eu lieu. Et on a entendu dans les infos, personne ne faisait pas une manifestation dans des grandes villes avec les têtes de l'État. Et ça se passe partout. C'est quelque chose qui est en train d'être une réalité et qui va augmenter. Le monde ne peut pas pouvoir, le rassemblement de tous les gouvernements ne peut pas pouvoir de détruire la haine et la violence qui est dans le cœur de chaque individu, qui de plus en plus va agir anarchiquement. Quand les gouvernements commencent à dégringoler parce qu'il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui peut s'accorder sur quoi que ce soit pour éviter que les autres, en fin de compte, chacun pour soi, sera le dernier mot. C'est effroyable, incroyable. Et le chrétien, en Christ, affranchi, et nous lisons, de la loi du péché. Ça, c'est très important. Je n'ai mis que du péché. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Comment ça se fait? Parce qu'il y a une loi qui a affranchi une deuxième loi, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de Jésus-Christ m'a affranchi d'une deuxième loi, la loi du péché et de la mort. La loi du péché affranchi par la loi de l'esprit. Et j'avais utilisé cette illustration pour expliquer comment ça se fait. La loi du péché existe, elle est très très féroce, elle ne diminue pas, mais il est affranchi par une autre loi. La première fois que je suis allé dans un avion Boeing 747, je me suis dit, c'est pas possible que cette monstruosité, avec 10 chaises, avec capacité d'avoir 500 personnes passagers, et ça date depuis 35 ans. Je me suis dit, comment est-ce que ça peut rouler un mètre, sans parler de rouler vite et puis s'envoler avec 500 personnes et tout le bagage? C'est parce que les scientifiques, l'homme a appris à vaincre une loi par une autre. La loi de la gravité qui garantit que si vous sautez par la fenêtre, vous n'allez pas tomber vers le haut, mais vers le bas, peut-être quand même pas annulée, mais vaincue. Momentanément, comme des oiseaux qui le font, ils vainquent la loi de la gravité. Et quand ils veulent descendre sur le poids, qu'est-ce qu'ils font? L'instrument sur quoi ils sont équipés se déploie pour que la loi de la gravité n'est plus moins fort que la loi de l'aérodynamique et puis plonge vers le poids. Quand ils arrivent, ils remettent, ils déploient lentement, doucement sur leur poids, le lapin. La loi de l'esprit de Christ a vaincu la loi de péché. Importante parce que regardez une troisième loi. Car chose impossible à la loi. Quelle loi? La loi de Moïse que tout le monde cherche à obéir. Ils n'arrivent pas. La loi de la pesanteur les a attirés vers le bas. Ils ne pouvaient pas obéir aux quelques petits 10 commandements. Ils n'ont pas l'air trop exagérés. Pourquoi aucune seule personne n'a pas eu la capacité de vivre les 10 commandements qui sont tous moraux? Personne. Parce que la loi du péché est plus fort que la capacité de l'homme de garder la loi de Moïse. La loi de Moïse dit, il faut voler. Il faut laisser le péché derrière. Il faut pas pécher du tout. Et l'homme n'arrive pas. Mais celui qui est en Christ reçoit une loi qui vainc la loi qui leur avait gardé par terre dans le péché. Chose impossible à la loi, parce que la loi rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils. Je suis affranchi par la loi du péché. Et donc, verset 5, mes affections ont été entièrement changées. Verset 9, l'Esprit de Dieu habite en moi. Il est la puissance qui peut maintenant. Je ne suis pas obligé de déployer mes ailes pour ne pas pécher. Mais je peux. Augustin a dit il est très fameux pour avoir dit ceci, au 4e siècle, avant la chute, l'homme pouvait pécher, il pouvait ne pas pécher. Before the fall, man could sin and he could not sin. Après la chute, l'homme ne pouvait pas ne pas pécher. Après la chute, l'homme ne pouvait pas ne pas pécher. After the fall, man could not sin. Après, le salut est arrivé. L'homme pouvait toujours pécher, mais l'homme pouvait aussi ne pas pécher. After salvation, man can sin. But he also can sin not. Nous avons été affranchis en tant que chrétiens. Ça, c'est riche. On n'a pas touché ça. Versets 14 jusqu'à 17. Ce n'est pas le blabla religieux. C'est la réalité fixe. Pour ceux qui sont en Christ, qui sera éternel, que nous serons fils, nous sommes fils de Dieu, héritiers de Dieu, conduits par l'Esprit, verset 14, adoptés en famille par l'Esprit, verset 15, rassurés. L'Esprit qui témoigne en nous que nous sommes véritablement fils, petit f, pas majuscule f pour indiquer Jésus le Fils de Dieu. Nous ne sommes pas fils dans ce sens, mais nous sommes en Christ. Et tout ce qui est à Christ est à nous. Nous sommes dans le bien-aimé. Et en tant que chrétien, chers amis, nous avons besoin d'être de plus en plus doctrinalement ancrés sur les solides fondements pour quand des émotions tournent à gauche et à droite et on frappe les pieds, on trouve la terre solide, pour savoir il y a certaines qui ne changent jamais. Si réel que que le chrétien peut vivre une absolue calme et tranquillité dans son cœur, malgré les éléments absolument, impossiblement difficiles à expliquer et à saisir et accepter. Conduit par l'Esprit, adopté dans la famille de Dieu, héritier avec Christ, co-héritier avec Christ. Et ce sont des mots que nous n'allons pas entrer aujourd'hui, mais je suis très 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 tenté de prendre la prochaine 6 mois pour vraiment voir de près ce que nous voyons en quelques minutes ce matin. Nous sommes fils de Dieu, héritiers de Dieu. Tout ce que Christ va recevoir, nous allons recevoir. Verset 18 jusqu'à 27. Savez-vous que vous êtes l'objet d'intercession de l'Esprit Saint? En verset 26, et on va voir tout à l'heure du Christ aussi, où il dit, l'Esprit lui-même intercède, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce que nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. La semaine dernière, et beaucoup d'autres fois, comment prier? Quoi dire? On ouvre la bouche, mais il n'y a pas de sens qui sorte. On ne sait pas comment prier. Celui qui est en moi, qui me quitte jamais, qui est celui qui me donne le pouvoir de déployer mes ailes pour vaincre le péché, jour après jour après jour, il aussi intercède pour moi. Il connaît mes faiblesses. Il voit mes bêtises. Il intercède auprès du Père, de la part de mes bizarres prières parfois. J'ai lu un livre il y a des années dont le titre était « Seigneur, pardonne nos prières ». Parce que quand on s'arrête pour considérer mot à mot certaines prières que nous prions, on devrait rougir de honte de savoir nous avons osé répéter ces mots, même avec un optique si myope et si égocentrique que j'espère que Dieu était occupé qu'il n'attendait pas. Avez-vous jamais dit quelque chose que vous savez que vous n'auriez pas dû dire et vous avez constaté que la personne à qui tu l'as dit, il n'a pas entendu et tu dis, heureusement. Et c'est le cas avec nous. Le Saint-Esprit le sait. Il sait pourquoi on avait mal fait. Il sait pourquoi on était moitié engagé, moitié distrait par les choses du monde. Il sait tout. Et il intercède à notre place. Et ce qui est vraiment merveilleux, ça c'est ton présent. Mais j'estime, verset 18, que les souffrances de temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, temps futur, qui sera révélée pour nous. La gloire à venir est la seule chose, espérance de la gloire à venir, est la seule chose qui nous garde saine. Pendant les moments où nous essayons d'analyser les situations, de procéder ce qui arrive autour de nous. La seule chose qui peut nous mettre les pieds sur le roc, c'est que nous voyons à l'avenir, nous savons comment ça va terminer. Nous avons déjà lu le dernier chapitre, nous savons comment ça va finir. Ça, ce qui se passe maintenant, j'arrive pas, si je zoome dessus, il n'y a pas de réponse. Sans que je dézoome et je vois la globalité de ce qui est en train de passer, mais mieux que cela, je crois en celui qui est fidèle, qui contrôle tout, et je refuse d'abandonner ma connaissance du fait que Dieu est bon, et Dieu sait tout, et Dieu est tout puissant, il n'y a rien qui se passe qui n'est pas sous la direction volontaire de Dieu, qui m'a adopté dans sa famille, qui a envoyé son fils pour traverser le plus grand cataclysme qui a jamais eu lieu, où la colère divine est tombée sur lui à un moment donné dans l'histoire. Il est ressuscité le troisième jour et il vit en celui qui est en Christ, par le sang de Christ, reçu rien que par la foi. Le Saint-Esprit intercède pour nous maintenant. Il garde devant nos yeux une espérance, et nous avons, il faut pas oublier, espérance n'est pas de doute, comme aujourd'hui. J'espère que demain il va pas pleuvoir, mais je ne sais pas. Mais l'espérance biblique est une assurance née de la foi, basée sur des faits passés, qui vise notre héritage. Nous sommes des héritiers. Notre héritage futur est encore à toucher. Il est sûr, il est certe, il est futur. Et pour nous, c'est un fait accompli. Et donc, on regarde avec ces choses à venir. Et nous savons que le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses. Et nous n'avons rien à craindre. Une gloire à venir, un affranchissement de la création qui attend notre affranchissement. Verset 19. Toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Toute la création, les planètes, Mars, qu'on cherche à viser avec des satellites, avec des, etc. Tout cela, parce que, verset 20, la création a été soumise à la vanité. Qui c'est qui a fait que les planètes ont cet aspect de désarroi et de tristesse et de sans vie et de catastrophe, comme si c'était arrivé? Dieu. Dieu, à la chute de l'homme, qui a fait comprendre que les conséquences du péché de l'homme allaient jusqu'à dans l'univers. Comment sera-t-il quand le dernier corps chrétien est remis, parce qu'il n'y aura aucune cellule physique d'un chrétien qui ne serait pas racheté? Regardez, continuation du livre. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Qui? Dieu. Avec l'espérance qu'elle aussi sera, qu'elle, la création, l'univers, Mars, sera affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, encore ce mot soupire, et souffre les douleurs de l'enfantement. Douleurs de l'enfantement. Juste en passage, il y a une seule chose qui peut nous garder saines dans ce qui se passe dans le monde. La souveraineté de Dieu qui va même terminer par redresser toute la création pour sa gloire. Ça est exactement ce qu'il était avant. Qui peut savoir imaginer comment ça serait? Mais ça sera. Mais les douleurs ne sont pas les douleurs de dévastement, les douleurs de l'enfantement. Une femme qui tient le coup parce qu'elle sait que ce douleur de l'enfantement va passer, et à la place de ces douleurs, il y a un fils, une fille, un enfant. C'est ça ce qu'il faut pensée. Verset 23, c'est merveilleux. Et ce n'est pas seulement elle, la création, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes. La création soupire. Nous soupirons aussi en attendant l'adoption. C'est quoi l'adoption dans ce cas? C'est la rédemption de notre corps. On n'est pas entièrement adopté en réalité, en actualité, jusqu'à ce que la rédemption de notre corps, chaque cellule, comment c'est, je ne sais pas. Mais le créateur de la ADN, il le sait très très bien. Il n'a pas fait des études pour mieux comprendre. Il savait tout depuis avant la création. Ah, parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés. On est sauvés par espérer qu'on sera sauvé. Non, attention, poussez cette idée de la tête. Espérer qu'aujourd'hui, temps moderne, n'est pas le même espoir ici. En espérant qu'on réalise que notre salut est réel, on sait ce qui s'est passé il y a 2000 ans, il y a une date, il y a des événements documentés, indisputables, sur quoi notre salut est basé. On regarde vers l'avenir avec espérance. La foi, 11.1 de Hébreux, est basée sur... Non, la foi traite de choses. La foi traite des choses qu'on ne voit pas, invisibles, et les choses qu'on espère. On n'espère rien de hier. On espère tous pour demain. On espère, c'est le futur. La foi traite le futur. On a la mauvaise foi, parfois. Mais tout le monde vise la foi, le futur par la foi, parce que personne ne voit le futur. Tout le monde prévoit, mais tout le monde sait que les meilleurs plans tombent dans l'eau facilement, sans rien qu'ils peuvent faire dessus eux-mêmes. Tout le monde sait ça. Personne qui n'est pas au courant de ce fait. Et ça trouble. En tant que chrétiens, nous avons une espérance fixe qui est sur quoi notre foi reste ferme. Ce n'est pas la cause de notre salut. Ce n'est même pas l'instrument de notre salut. C'est un fait basé sur la foi que nous savons et on reste calme parce qu'on sait qu'à la fin de la route, on aura tout ce que Dieu a promis avec une meilleure compréhension de ce que nous n'avions compris avant. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Oui, la dernière partie. L'espérance qu'on voit n'est pas espérance. Si j'espère qu'il y a un verre d'eau devant moi pour que je puisse voir, je n'espère plus parce qu'il est là. Il n'y a plus d'espérance. Je le prends, j'en ai besoin. Il n'y a pas de foi. Il n'y a pas d'espoir pour ça. L'espoir traite les choses futures. Et la foi traite aussi les choses futures, mais les choses invisibles, mais qui sont quand même réelles. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec persévérance. Notre espérance est fixe sur un objet concret dans l'avenir, et peu ce qui se passe entre ça et ça ne change rien par rapport à ma foi. Un don de l'esprit d'un véritable chrétien, c'est il persévère. Il persévère. Franchement, ceux qui arrivent à ceux qui n'ont pas l'esprit en eux pour qu'ils puissent être donnés le miracle de la persévérance, ils ne vont pas, ils vont jeter l'éponge, ça vaut pas le coup de continuer. Avec ce qui est devant nous, on a le choix entre la belle vie et la mort torturée. On va terminer par choisir la belle vie, sans doute. Je ne dis pas pour la plupart qu'on n'attend pas la torture. On n'espère pas. Et je ne veux pas parler comme apocalyptique. Bon. Mais beaucoup l'ont déjà connu, et pourquoi pas notre génération. Que nous préparions nos enfants et nos petits-enfants, et eux, pour qu'ils puissent préparer leurs enfants, pour qu'ils aient la foi fixe et solide, avec une espérance future, parce qu'il faut absolument traverser 2015 jusqu'à la mort, avec toutes les épreuves. La vie chrétienne est une vie de conflit et une vie d'épreuve. Et le chrétien a un optique de regarder comme un sujet de joie chaque épreuve qui lui arrive, parce qu'il sait ce qui est en train de se faire derrière les rideaux dans sa vie pour qu'il manifeste l'image de Christ. Rapidement pour finir. Il sait aussi que toutes choses concourent au bien. Oui, ça se dit facile, mais ça sort de nos lèvres. Mais on apprend. C'est vrai. Ça peut être dit autrement. Il n'y a aucune chose qui ne concourt pas au bien. Parce que toutes choses concourent au bien pour ceux qui sont en Christ. Et Dieu lui-même. Et pour nous, gardez 31, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Dieu est pour nous. Mais il est aussi devant ça, mais Dieu est pour nous, c'est un fait. Et si ça c'est le cas, si Dieu est pour nous, qui sera contre? Si Dieu est pour moi, toute l'opposition est Mickey Mouse. Si Dieu est pour moi, tous à côté, je me rappelle bien quand j'étais tout petit, je n'étais pas tout petit, j'avais 12 ans, mon frère avait 11 ans, et on livrait des journaux très tôt le matin avant d'aller à l'école. 5 heures du matin, on livrait des journaux. Il faisait très froid parfois, et là où on ramassait des journaux, la plupart des gens étaient plus grands que nous. Ils étaient tous des ados et un peu plus âgés, ils avaient 14 ans. 15 ans, 16 ans, mais moi et mon frère, on avait 12 ans et 11 ans, et on nous a maltraités souvent. À un moment donné, on a prétendu qu'on parlait au téléphone à mon père pour qu'il vienne, et quelques minutes plus tard, il est venu sur son mobylette, et on lui avait annoncé que il nous avait fait du mal, et mon père, il était quelqu'un assez explosif, et il sortit de son vélo, il est allé vers les autres personnes, et puis, comment est-ce que vous aimeriez si des gens te poussent comme ça, hein? Et moi, je me sentais très bien. J'étais très content. Je me sentais en sécurité, parce que mon père, qui était fort, était à côté de moi, et puis je ne craignais rien du tout. Si Dieu est sur notre côté, et si Dieu est pour nous, il dit, il est pour nous, qui sera contre? Et en plus, rien n'est épargné. Si quelqu'un vous invite de manger chez eux, il vous donne un plat, un assiette assez, très magnifique, il vous donne, passez s'il vous plaît le poivre, il dit, mais non, pas de poivre, regarde, vous en avez déjà beaucoup, et vous demandez encore du poivre? Qu'est-ce que vous faites? Non, il ne dit pas ça. Bien sûr, tu peux avoir le poivre, et le sel, et la sauce, et tout ce qui est là. S'il donne le grand plat à vous, c'est parce qu'il veut que vous mettez tout ce que vous voulez dessus, il ne vous épargne rien du tout. Et c'est ça l'enseignement ici. Nous avons Dieu qui est pour nous. L'opposition est comme rien, rien ne nous épargne. Toute bouche d'accusation, verset 37, sera fermé, on a parlé de toute bouche qui est ouverte, Romains chapitre 3, verset 19. Dieu conduit des gens vers la loi pour qu'ils ferment la bouche contre toute justification de soi. J'ai une voisine qui n'est pas loin d'ici, sexy maison, qui, à moins qu'elle ferme sa bouche pour arrêter de se justifier, elle ne peut pas recevoir la justification qui remplace la justification de soi. Mais nous avons des accusateurs. Martin Luther parlait de Satan, qui était très réel pour lui, qui l'accusait. Et telle, une fois, elle était si puissante qu'il a pris son bouteille de encre, il l'a lancé contre Satan, contre le mur. Je ne crois pas qu'il l'a touché. Mais c'était si réel pour lui. Et il a dit à Satan, oui, tu m'accuses, et tout ce que tu dis est vrai. Et il y a des choses que tu n'as pas dit qui sont encore vraies. Mais je suis en Christ et mon avocat est à côté du trône maintenant. Et il m'a justifié. Il s'était calmé. Et puis, plein d'autres choses à dire. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, rien, rien. Qui nous séparera, verset 35, de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée? Non, non, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Toutes ces choses pourraient nous arriver, mais ils vont pas séparer le chrétien de la réalité de ne pas périr, mais de vivre comme si la vie est Christ et la mort n'est qu'un gain. Mais toutes ces choses sont, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à tous ceux qui ont reçu. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas toucher l'âme. Tu sais pourquoi Jésus tremblait dans le jardin de Gethsémané et même sur la croix? Parce qu'il était devant, pour la première fois, celui qui pourrait tuer corps et âme. Il ne craignait pas le Sanhédrin qui l'a condamné. Il ne craignait pas Hérode qui se moquait de lui. Il ne craignait pas Pilate. Il ne craignait pas les soldats qui l'ont fait clouer. Il ne craignait personne. Il est devant le mort maintenant. Il était devant celui qui pourrait l'abandonner quand il en avait besoin de plus. Qui que ce soit puisse l'abandonner. Mais si Dieu l'abandonne, qu'est-ce qu'il y a de pire? Rien. Pour lui, sa souffrance était là, la plus prononcée, terrible. Devant l'abandonnement de son propre Père, qu'il a abandonné parce qu'il est devenu péché. Afin que la loi de l'Esprit puisse vaincre la loi de péché en moi par le sang de Christ, pour que je vole et je vis la vie étant justifié, je suis maintenant en train d'être sanctifié à travers des épreuves, pour qu'un jour je voie la gloire à côté de celui qui connaissait la gloire avant la création du monde et qui attend avec impatience que ce que le Père lui a donné puisse voir sa gloire maintenant, comme il voit. Il attend ça avec impatience de ceux qui ont mis leur foi en Christ.